Bonsoir. Les syndicats de fonctionnaires et de cheminots dans la rue pour protester contre les réformes du gouvernement, avec notamment un trafic SNCF assez perturbé aujourd'hui. Alors, on ne va pas revenir sur le fait de savoir si le test social est réussi, si le gouvernement va résister. Au cœur de la réforme voulue par le président de la République, il y a aussi cette volonté de bien préparer la SNCF méga endettée, au service pas toujours parfait, à la concurrence d'ici 2 ans pour le transport de voyageurs. On voit la concurrence qui s'organise, qui se profile, des opérateurs étrangers, des opérateurs français. Mais au fait, face à la SNCF, que propose exactement la concurrence? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et sur ce plateau des décodeurs de l'écho sur BFM Business, à la radio et à la télé, des experts, des acteurs du dossier également. Un expert, bien entendu, vous le connaissez, c'est Pascal Perry, économiste, directeur de PNC Économie, qui avait publié il y a quelques années SNCF, un scandale français toujours d'actualité. Un acteur, Roberto Rinaudo, il est italien, c'est le PDG de Tello, c'est la filiale de Trenitalia. Trenitalia, c'est la SNCF italienne qui assure notamment des Paris-Venise d'ores et déjà, et qui veut lancer des TGV en France, par exemple, entre Paris et Bordeaux. Autre acteur également, c'est Transdev, dont les actionnaires sont la CDC et Veolia. Richard Dujardin, son directeur général France et ancien directeur international du groupe. Oui, justement, Transdev qui est déjà la principale concurrente de la Deutsche Bahn en Allemagne. Et puis Benoît Thirion, consultant du cabinet Altermain, spécialiste des questions de concurrence, auteur d'une note sur la réforme ferroviaire, élargissant le débat, publié à la Fondation Jean Jaurès. Alors, l'ouverture à la concurrence des lignes TGV 2020, puis des lignes sous contrat de service public, ce qu'on appelle donc les TER, les Intercités, les anciens Corail, à partir de 2023, on verra si ces dates sont fermes, définitives, plus ou moins souples. Bon, juste Pascal Perry, qu'on se visualise bien, ça ressemble à quoi une ouverture à la concurrence? Parce que l'ouverture à la concurrence pour les télécoms, c'est simple, on imagine, il y a des antennes, chacun va se partager, etc. Bon, très bien. Mais là, il y a quand même une donnée physique. Il y a des rails quand même. Mmh. Est-ce qu'on va faire rouler un opérateur le matin, puis un autre l'après-midi, ils vont se partager des réseaux? Comment ça fonctionne?
Premier point, il n'y a pas de concurrence sur le réseau, le réseau physique, parce que ça mobiliserait un stock de capital considérable. Donc, on a séparé les activités. Il y a d'un côté l'activité de réseau, c'est l'actif physique que vous évoquez, puis il y a de l'autre côté l'activité de service, qui consiste à transporter des personnes ou des marchandises. Ce qui est éligible à la concurrence aujourd'hui, c'est cette dernière activité, c'est le transport des personnes, avec le calendrier que vous avez évoqué. On peut ajouter simplement que l'Île-de-France, qui est l'essentiel des personnes transportées chaque jour, c'est 80% des gens qui prennent le train.
1 milliard de passagers par an, c'est sur ça. Les trains de banlieue franciliens, et il y a 400 millions de voyages annuels ailleurs, en dehors de ce milliard parisien.
Bon, ce périmètre de l'Île-de-France, du réseau francilien, pour ce périmètre, la concurrence est repoussée à plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend de après 2030, pour être tout à fait précis. On attend de nouveaux acteurs, on attend un peu d'innovation, peut-être de l'innovation technologique, mais surtout de l'innovation commerciale. On attend un peu d'air sur ce marché qui était un marché très monopolistique, dans lequel les consommateurs, je veux pas parler des usagers, mais plutôt des clients, avaient le sentiment d'être face à un acteur de la rente. Alors, on a beaucoup investi, c'est vrai, mais on attend aujourd'hui un peu d'air, si vous voulez, dans un marché devra être ouvert à la concurrence assez rapidement, celui de la grande vitesse. Et on a, par ailleurs, dernier élément, des exemples autour de nous, des exemples de pays voisins dans lesquels la concurrence a apporté de la dynamique tarifaire, du confort, du bien-être et des offres supplémentaires.
Ouais, on verra justement quels sont les bons modèles qui ont réussi. Vous nous parlez de l'Allemagne également, vous Richard Dujardin, vous de l'Italie bien sûr, Roberto Rinaudo. Benoît Thirion, on a besoin d'air comme ça, comme le dit Pascal Perry justement, c'est pour ça que la concurrence... Et là, bienvenue, vous dites, il faut de la concurrence, au-delà du fait que c'est l'Europe qui nous le demande.
Alors la concurrence, c'est clair que c'est une remise en cause du modèle historique du ferroviaire, qui était basé sur un monopole de la SNCF, à la fois sur le réseau et sur les services. On peut en attendre des bienfaits. C'est un outil pour améliorer la qualité de service, la performance à un moindre coût. Et également, un deuxième point qui est important, c'est la transparence de la SNCF vis-à-vis notamment des collectivités locales et des régions qui délèguent leur contrat. Cela dit, pour que ça fonctionne bien, la concurrence, il faut l'organiser. Et c'est là où on a un choix entre deux systèmes. On a un système de concurrence pour le marché, qui va être le système applicable quand on est en présence de services publics, donc typiquement au niveau régional, où les régions veulent organiser le service, savoir quelles lignes vont être desservies par l'opérateur, même celles qui ne sont pas rentables.
Les régions qui payent déjà 3 milliards d'euros par an, justement,
absolument,
pour la gestion. Donc elles sont
en demande de concurrence à ce niveau-là, mais c'est une concurrence qui est organisée, puisque, en fait, c'est des délégations de services publics avec des appels d'offres. Elles définissent les conditions du service et elles l'attribuent à l'opérateur qui leur propose la meilleure offre. Ça, c'est le premier système, un petit peu, de concurrence dans le secteur ferroviaire. Alors, le deuxième système, ça va être un système d'open access. L'open access, c'est quoi ? C'est pour les lignes commerciales. C'est de dire que les opérateurs vont demander des sillons sur des lignes et tous les opérateurs peuvent demander ces sillons. C'est pas organisé par la personne publique. En revanche, c'est régulé. C'est-à-dire qu'on a un régulateur qui va attribuer ces sillons.
Et on postule devant qui ? Qui est-ce qui décide ensuite que
c'est l'ARAFER,
l'autorité gendarme du transport ferroviaire,
l'autorité régulatrice en France. Et donc ça, c'est le système qui a vocation à s'appliquer pour les lignes commerciales, avec quand même en tête, on en reparlera peut-être, mais des impératifs d'équilibre du territoire, puisque le risque présent de ce système-là,
voilà, bien sûr,
c'est que les opérateurs n'aillent que vers les lignes
rentables, et puis que la SNCF s'occupe de tout ce qui marche.
Exactement.
Voilà.
Et donc,
comme dans le transport aérien,
que les services se dégradent ou qu'on abandonne des lignes. Et donc, il faut sans doute trouver un équilibre entre, d'un côté, l'open access pour les lignes commerciales, mais aussi peut-être avec une dose de franchise pour s'assurer que même les lignes non rentables sont desservies. Typiquement, un trajet Paris-Nice. On sait que Paris-Marseille va être rentable et que Marseille-Nice ne l'est pas. Et pourtant, il y a un intérêt quand même à desservir Marseille-Nice. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser en matière de concurrence dans le ferroviaire.
Bon, question que je vais poser maintenant aux deux acteurs, hein, aux deux postulants, quelque part, pour récupérer un petit morceau du réseau ferroviaire français. Je vous pose la question à un instant. Roberto Ruinodo, je vous la pose en premier. Richard Dujardin, Transdev, donc, vous êtes concurrent à quoi exactement ?
Alors, mon Transdev, son cœur d'activité, c'est le transport du quotidien.
Bien sûr.
Donc aujourd'hui...
On va le rappeler, c'est 43 000 véhicules, 22 réseaux de tramways, par exemple. Voilà, c'est du transport urbain, du transport de cars, etc. Voilà.
Exactement. Mais aussi, on fait déjà beaucoup de trains régionaux.
Tout juste.
Donc on en fait, alors, en Europe, en Allemagne et en Suède, mais également très loin de chez nous, on en fait en Nouvelle-Zélande.
C'est vrai.
Où c'est nous qui sommes le seul opérateur privé et qui exploitons et les réseaux d'Auckland et les réseaux de Wellington.
Voilà.
Voilà. Donc nous aujourd'hui, donc l'Île-de-France, comme Pascal l'a dit, sera ouvert plus tardivement, mais le marché du TER est le marché bien sûr sur lequel on se présentera.
Qu'est-ce qui vous plaît pour concourir sur le TER justement ? On a l'impression que c'est un beau gâteau les trains régionaux, non ?
Alors, on voit pas uniquement le mode de transport. Donc l'autorité organisatrice sera la région, comme le disait Benoît. Mais au-delà de ça, nous, ce qu'on veut, c'est gérer de la mobilité. Donc, ce qu'on espère vraiment, c'est que les régions, plutôt que de raisonner par mode, vont raisonner par territoire et par mobilité.
Mobilité, c'est-à-dire qu'à la limite, vous pourrez vous occuper à la fois du train, mais une fois qu'on sera arrivé, qu'on aura posé les pieds, par exemple, j'en sais rien, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, ou je sais pas quoi, que vous occupez des autocars, voire
du 360 degrés.
Exactement. Voilà. On aspire vraiment à ça et on espère que les régions iront en ce sens.
Donc, candidat pour le TER, rien d'autre ?
Rien d'autre.
Rien d'autre. Bah, c'est bien. Voilà, vous pouvez vous concentrer là-dessus.
Mais c'est important. Juste un mot. Pascal, c'est important Péry, parce que le train, enfin, les questions de mobilité passent du produit à la solution. C'est ça qu'il faut comprendre, je pense. Aujourd'hui, on attend des opérateurs qui nous vendent des solutions globales de mobilité. Ça induit effectivement du train, du ferroviaire, mais aussi de la route. Et la SNCF est d'ailleurs déjà un opérateur important dans le domaine de la route.
De la route avec Keolis notamment. Et on verra. Tiens, d'ailleurs, parmi les concurrents qui veulent concourir, donc, pour reprendre un petit morceau du réseau. Peut-être la SNCF également, la propre filiale de la SNCF va peut-être pouvoir aussi concourir. On verra ça tout à l'heure. On viendra sur ce que vous offrez aussi, ce que vous allez proposer. Roberto Ruinodo, Tello, donc filiale de Trenitalia, qui assure déjà deux liaisons entre Paris et Venise, je le disais, donc très présent évidemment en Italie, puisque c'est la filiale de la SNCF locale. Vous, votre objectif, c'est quoi alors sur la France ? Vous aimeriez quoi comme petit morceau ?
Alors, vous savez que Tello est une société de Trenitalia, une filiale 100% Trenitalia. Aujourd'hui, nous sommes le seul opérateur alternatif voyageur ferroviaire en France. Actuellement, nous avons une offre de trains nuit sur la liaison Paris-Venise et nous avons 6 trains par jour sur la liaison Milan-Côte d'Azur, dont 4 jusqu'à Nice et 2 jusqu'à Marseille.
Donc là, on est entre les deux pays, mais à l'intérieur de notre territoire à nous, le territoire français, qu'est-ce que vous voulez ?
Alors, pour l'instant, nous sommes focalisés sur des lignes internationales. Donc, notre ambition est à la fois de consolider l'offre existante et qui soit focalisée pas seulement sur un simple service de transport, mais surtout de se focaliser sur l'expérience de voyage, c'est-à-dire de donner une véritable expérience de voyage mémorable, agréable pour les clients.
Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez proposer comme offre aux clients alors qu'on ne trouve pas actuellement chez la SNCF?
Alors, si je parle par exemple de l'offre existante, nous hier, nous avons présenté des nouvelles voitures restaurants et wagons-lits qui sont évidemment plus agréables. Nous avons l'idée de mettre à disposition des wagons-lits par exemple avec des douches et des toilettes dans la cabine. Nous souvent prévoyons des soirées gastronomiques et musicales où il y a la possibilité de faire de la dégustation de plats produits par les régions traversées par le train. Donc c'est une façon, c'est une philosophie de voyage
bien
qui
sûr.
Est différente.
Alors je comprends très bien sur des liaisons internationales, sur du Paris-Venise, très bien, on a le temps, c'est de l'art de vivre, très,
oui.
très bien. Mais
oui.
bon, clairement, Pascal, il va pas nous proposer, j'imagine, sur un Saint-Quentin-en-Yvelines ou un Mantes-la-Jolie, Rouen, un parcours gastronomique.
Non, je vois mal Tello, effectivement, avec des parcours gastronomiques, de l'expérience client, hein, des stratégies user-centric, parce que c'est ça dont vous parlez en réalité, sur des lignes régionales. Mais on attend, en même temps, si vous voulez, moi, je parle pas comme un opérateur étranger, mais de mon point de vue d'observateur, on attend aussi que les nouvelles entreprises, d'une part, réenchantent le mythe. C'est vrai que c'est très agréable, tout ce que vous décrivez, les souvenirs d'enfance, je me souviens d'avoir pris le train avec des repas en livrée, c'était très agréable, et ça participait en même temps de cette espèce de culture ferroviaire qu'on avait en France.
C'était les TE, notamment.
Oui, c'était formidable, et en même temps, on attend aussi sur le train du quotidien, voilà. mais aussi sur les lignes à grande vitesse, un peu de concurrence. Regardez par exemple quels sont les prix aujourd'hui d'un Paris-Bordeaux. C'est-à-dire le Paris-Bordeaux, le prix a explosé. Alors certes, on a divisé le temps de parcours par deux, mais le temps coûte cher et on voit qu'il y a aujourd'hui une situation de monopole qui n'est pas profitable en réalité aux consommateurs. Et donc dans la concurrence qui est en réalité non pas une concurrence ferroviaire, mais une concurrence intermodale, on aboutit à cette situation que l'avion qui est une activité, le transport aérien qui est une activité qui est très fiscalisée est moins cher que le train qui est une activité très soutenue par l'argent public. Donc si vous voulez, le consommateur voudrait s'y retrouver.
Alors justement, tiens, c'est une très bonne question là que vous posez Pascal Perry, et je vous fais tous réagir bien entendu. La question souvent quand la concurrence arrive, on se dit les prix vont baisser. Sauf que là, les tarifs de la SNCF sont méga subventionnés. Est-ce que ces trains bénéficient, ces lignes, ce Paris-Bordeaux, si jamais ils passent à la concurrence, ce Paris-Marseille, s'ils passent à la concurrence, est-ce que les subventions venues de l'État, venues de je ne sais pas quelle puissance publique exactement, est-ce qu'elles resteront? Et est-ce que justement les prix ne vont pas grimper?
L'État met 13 milliards d'euros par an à peu de choses près pour soutenir le système ferroviaire. Il y en a 3 qui vont au système de retraite des cheminots. Le reste, c'est de la contribution directe. Non, s'il y a des acteurs privés, évidemment, l'État doit se désengager.
Ah,
mais
alors,
on doit passer d'un modèle, si vous voulez, dans lequel le voyageur paye le coût complet de son voyage. Le système actuel est un système vicieux en réalité, parce que la contribution publique a allégé le coût du transport ferroviaire et aboutit à la situation d'endettement, de déficit d'exploitation. Si on avait des comptes d'exploitation extrêmement transparents de la SNCF, ben on s'apercevrait qu'en réalité c'est une activité qui est très soutenue, qui est aujourd'hui très subventionnée par l'État.
Roberto Rinaldo, Tello.
Je vais intervenir seulement en disant que en Italie, on a fait l'expérience de l'open access. Trenitalia a vécu toute l'expérience de l'open access et je peux confirmer que cela a été une expérience formidable parce que grâce à la concurrence, tout le monde, tous les acteurs concernés ont bénéficié. Tout d'abord, tous les consommateurs, donc les clients, avec une sensible augmentation de la qualité du service et de la satisfaction et de l'augmentation aussi de du marché, mais aussi de la baisse des prix. Alors, je voudrais dire que paradoxalement, l'entreprise ferroviaire qui a mieux bénéficié de l'ouverture à la concurrence a été l'opérateur historique, c'est-à-dire Trenitalia. Je viens de Trenitalia et je peux confirmer ça. En 2006, le groupe ferroviaire dello Stato avait des pertes de moins de 2,1 milliards d'euros. Après, il y a eu l'ouverture à la concurrence avec l'arrivée de NTV en 2012.
Bien sûr, Italo, oui, c'est ça.
Le groupe a fait des profits de 772 millions d'euros.
Ça a fait baisser les prix de Trenitalia, le fait qu'il y ait ce TGV privé, Italo, concurrent de
Trenitalia. Il y a eu une augmentation du marché de 75% et une réduction des prix d'au moins le 25%.
Je reviens sur les prix de la France quand même, sur ce point important, Benoît Thirion. Les prix sont subventionnés. La puissance publique se désengage à terme. Quid des prix, justement? Les opérateurs alternatifs vont tout prendre à leur charge. Donc, peut-être le consommateur, le client, le voyageur?
Alors, c'est là où il faut distinguer, en fait, les autorités qui organisent la concurrence et les niveaux, du coup, de service ferroviaire.
Je pensais aux grandes lignes, plus aux régions.
C'est-à-dire que sur le TGV, effectivement, si les opérateurs candidatent, sur des lignes qu'on considère comme rentables, il n'y a pas de raison que l'État, parce que là c'est bien l'État, vienne financer ces services-là. En revanche, la situation est complètement différente au niveau des TER.
Restez sur les grandes lignes. Ouais. Restez sur les grandes lignes. Le prix du Paris-Bordeaux aujourd'hui, qui est assez cher, hein, comme le disait Pascal Perry, il baisse ou au contraire il continue de grimper?
On peut
par exemple Transdev met la main, pas Transdev, Trenitalia met la main
sur ces lignes rentables, on peut sans doute attendre des baisses par des efforts de productivité. On sait que la SNCF est pénalisée par un certain nombre de points
de
d'organisation du travail, de lourdeur en termes de productivité. On dit que la SNCF elle a entre 25 et 30% de surcoût par rapport à des concurrents étrangers par exemple. Et donc c'est vrai qu'elle est pénalisée par ça et que des concurrents pourraient arriver avec une offre plus compétitive de cette là sur les lignes rentables encore une fois.
Oui, Richard Dujardin, à la tête de Transdev, si vous mettez la main sur un réseau régional ou d'autres lignes, que devient le personnel SNCF?
Donc il sera transféré, donc c'est un
peu... Il sera chez vous?
Il sera chez nous, oui.
Il sera chez vous, avec le même statut?
Alors ça, c'est une décision politique, et c'est les débats actuellement entre le...
La retraite, les rémunérations, la garantie de l'emploi,
exactement.
Vous en avez envie ou pas, vous?
Non, mais je pense qu'il faudra évoluer de toute façon. C'est la société qui évolue. C'est normal que ce statut aussi évolue. Après, encore une fois, c'est une décision politique. Mais nous, quelque part, ils seront les bienvenus chez nous, parce qu'il y a quand même un vrai savoir-faire à la SNCF. Et donc,
personne ne remet ça en cause, bien sûr. Mais quelque part, ça coûte cher. Benoît, juste un mot, Benoît Thirion. Comment est-ce qu'on est compétitif si on est obligé de supporter les contraintes, justement, d'un tel statut?
On l'est pas tout dans le statut, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du statut aujourd'hui, mais c'est pas ce qui fait toute l'organisation du travail de l'entreprise.
Mais ça pèse nécessairement quand même, un peu.
Ça pèse, mais il faut pas réduire le débat à ça, je pense. Il y a aussi des questions d'organisation du travail, de montée en compétences des salariés, qui dépendent pas forcément du statut. Aujourd'hui, on est fixé là-dessus, mais il y a plein d'autres paramètres qui font qu'on peut être plus compétitif par l'innovation. Ça peut aussi être des gains de productivité qui ne dépendent pas du tout du statut des cheminots.
Je redonne la parole, Richard.
Juste d'un mot. On dit que les règles d'engagement, c'est-à-dire la question des horaires, représentent une perte de 8% de productivité. On estime que l'organisation du temps de travail, actuellement à la SNCF, représente une perte de productivité latente de 7%, et que la question de la polyvalence, c'est également 7%. Donc ça fait un gain de productivité net de 22% qui pourrait être acquis assez rapidement. C'est l'idée du sac à dos social, c'est-à-dire que si les gens quittent la SNCF pour aller vers des entreprises nouvelles avec le statut SOC plus le sac à dos social, évidemment ça va pénaliser les nouveaux entrants, et finalement ni le consommateur ni les collectivités territoriales n'auront à y gagner.
Alors continuez, pardon, Richard Dujardin, Transdev.
Alors premièrement, donc pour en venir à ça, donc économiquement aujourd'hui le train régional est subventionné à 75%. D'accord. Donc l'usager aujourd'hui ne paye que 25% du coût.
Et il le sera toujours à terme.
Alors oui. Et après, là encore une fois, c'est une punition de l'autorité organisatrice, donc de la région. Mais il y a deux leviers en fait. Le premier levier, c'est bien sûr une baisse des coûts par une meilleure organisation du travail et la polyvalence. Ça, c'est le premier levier. Donc ça va baisser les coûts. Mais une qualité accrue augmentera la fréquentation, ce qui amènera aussi des revenus supplémentaires. Donc c'est un cercle vertueux. Donc, juste un exemple. Donc, aujourd'hui, en fait, en sous-traitance de la SNCF, on exploite deux petites lignes en Bretagne. Ces fameuses petites lignes qui ont été, qui ont fait la une pas mal de, du rapport Spinetta. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a 14 conducteurs pour ces deux lignes-là, 15 agents de circulation et 20 agents qui font la maintenance de l'infrastructure. Le matériel nous est fourni par un technicentre. Mais donc, nos conducteurs font non seulement de la conduite, mais en fait, ils conduisent 5 heures par jour. Donc, l'idée après, c'est qu'ils s'occupent, ils sont responsables de leur véhicule. Donc, remplir de diesel, par exemple, voilà, ce sont des tâches comme ça. L'autre, pour les agents de circulation, c'est eux qui donc réservent les sillons avec la SNCF Réseau et s'occupent donc de la circulation de nos trains. Mais derrière ça, en fait, ils vendent des billets. Et grâce à ça, les trois gares que l'on dessert, qui sont Guingamp, Carhaix et Paimpol, sont ouvertes tout le temps où les trains circulent. Ce qui n'est pas vrai dans beaucoup de gares aujourd'hui en France. Et cette polyvalence amène une qualité accrue du service également. Et une responsabilisation de nos employés. Ce qui, enfin, après, c'est aussi l'adhésion à un modèle, à quelque chose comme ça.
Mais la concurrence touchera les gares aussi ou pas?
Pour le moment, la SNCF a isolé les gares. Oui, les gares, c'est une source, c'est un centre de profit qui est extrêmement significatif.
La France, c'est un terrain convoité par les opérateurs. Oui. C'est quoi les atouts, les handicaps d'un marché comme la France qui représente quelques, on le disait tout à l'heure, 1,4 milliard de voyages annuels, les atouts, les handicaps du réseau, de sa clientèle. En quoi c'est attractif? En quoi vous avez l'un et l'autre envie de poser votre drapeau donc à la place de la SNCF? Roberto Rinaldo, Tello.
Alors,
italien.
Nous avons l'ambition certainement de nous proposer dans le marché français parce que c'est un marché vraiment très important en Europe et donc il y a toutes les possibilités d'apporter le savoir-faire de Trenitalia en France. On poursuit aussi une stratégie de développement international de Trenitalia avec l'ouverture de lignes internationales depuis la France. Mais attention, il faut bien évaluer.
Vous, ce qui vous intéresse sur le réseau français, ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure, oui. Je le rappelle, un petit peu de TER, un petit peu de trains régionaux, donc ça vous intéresse, un peu à l'instar de Richard Dujardin, de Transdev.
Nous avons aussi l'envie de participer aux appels d'offres, oui. Et d'apporter donc le savoir-faire des Trenitalia dans des appels d'offres, comme par exemple, dernièrement, la région PACA semble être la plus attentive vers ce processus-là, et dernièrement, nous avons signé un accord historique entre la région PACA et la SNCF pour permettre aussi aux abonnés de monter sur les 30 vélos avec un abonnement mensuel de 3,01 € plus par mois pour permettre aux usagers de monter sur notre train. Et donc cela, ça démontre notre envie.
Donc trains régionaux et puis aussi le Paris-Bordeaux, la ligne TGV.
Alors,
ça vous plaît, ça?
Aujourd'hui,
aussi,
nous ne pouvons pas parler de lignes et de dates de lancement de ces projets-là parce qu'il faut en parallèle évaluer très bien quelles sont les conditions à l'accès du marché français.
Oui, le marché français, justement, Transdev, vous y êtes déjà, oui. Dans les villes, notamment, vous avez envie d'étendre sur le réseau ferroviaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire, ce qui va bien à la SNCF, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce que vous avez envie de faire de différent, justement, comme service, comme prix, par exemple?
Alors, encore une fois, donc,
je suis, par exemple, moi, je suis président de région, je suis à la tête de l'ARAFER, vous venez me voir et vous me dites, ben voilà, ça marche bien à la SNCF, mais j'ai envie de l'améliorer. Ça marche pas bien. Voilà ce que je propose. Quoi, par exemple?
Alors, donc, on va pas dire que tout marche pas bien, bien au contraire. Mais c'est, encore une fois, c'est pas comme ça qu'il faut l'appréhender. Il faut analyser les réseaux aujourd'hui, voir la décision, la vision de chaque région, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur système ferroviaire, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur mobilité, et ensuite, avec ça, on peut proposer des solutions alternatives. Et c'est vraiment ça, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. On a
le global.
On a une opportunité unique, suite à la loi NOTRe, Bien sûr. Vous avez des autorités organisatrices de transport et j'espère demain de mobilité suite aux assises de la mobilité et qui vont pouvoir gérer leur mobilité sur leur territoire.
Bien sûr. Ouais.
Et ça, ce sera très très puissant. Et là, on va pouvoir aussi développer des synergies entre les modes de transport et faire des vrais gains de productivité et faire aussi surtout une augmentation de la qualité du service offert aux voyageurs au quotidien.
Donc ça sera plus en effet quelque chose de proposer une offre globale en effet mobilité comme on le disait tout à l'heure que jouer sur j'en sais rien l'épaisseur des coussins ou
non non il y a quand même des choses à faire.
Si
non non
bon,
non,
je
non, non, non mais tout à fait non mais il y a
savoir
y a,
non mais où je vais voyager dans deux ans quoi.
Voilà donc
grâce à vous ou d'autres enfin
voilà bon. Alors aujourd'hui, donc, premièrement, le matériel roulant. Les collectivités ont beaucoup investi dans le matériel roulant, donc ce qui fait que elles vont récupérer la propriété de ce matériel roulant et le confier à l'exploitant. Mais à terme, ce qui sera intéressant quand même, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, il y a eu un tel développement du ferroviaire régional en Allemagne qu'à chaque nouvel appel d'offres, on nous demande d'arriver avec du nouveau matériel roulant. Mmh. Donc à la pointe, avec du Wi-Fi, avec des branchements. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est que ça va pas se faire, ça va pas être un Big Bang, mais au moins initier le mouvement va faire qu'on va aller vers beaucoup plus de qualité à un moindre coût.
Pascal Perry. Ouais.
Alors, la France, c'est pas l'Allemagne. C'est pas la même géographie, c'est pas la même histoire. C'est un pays. L'Allemagne, c'est un pays déconcentré avec tout quelques grandes villes. Nous, nous vivons dans un système qui est celui du hub parisien, et tout a convergé autour du hub parisien. Et on a construit le réseau en France une grande partie du 19e siècle, 18e et 19e siècle. On l'a développé dans une France où il y avait 60% de gens qui vivaient à la campagne. Aujourd'hui, c'est plus que l'inverse, puisque 80% des Français vivent dans une ville. Donc, si vous voulez, il y a un mythe, Fabrice, qui est celui des petites lignes. Il y a certaines petites lignes, il faut le dire clairement, qu'il faut fermer, parce que elles ne correspondent à aucune demande. Et il y a d'autres lignes qui sont de petites lignes régionales pour lesquelles un autobus serait plus efficace, d'abord en termes d'efficacité économique, d'efficacité sociale et d'efficacité écologique. J'ajoute que quand on a 10 ou 15 personnes à transporter entre Neussargues et Massiac, par exemple, dans le Cantal, ben c'est plus simple de le faire avec un autobus qu'avec une motrice gasoil et des trains qui sont certes modernes pour la plupart, mais qui évoluent sur un réseau qui n'a pas été entretenu avec des motrices qui roulent à 25 km. Donc, dans certains cas, je veux dire, il faut, vous voyez, aujourd'hui, il faut se poser toutes les questions. C'est-à-dire, il faut rien s'interdire dans le domaine de la reconstruction, du réenchantement du modèle ferroviaire français.
Un mot, Roberto Rinaldo, puis on verra justement les bons exemples à suivre à l'étranger. Un mot, s'il vous plaît, on se retrouve dans un.
Non, seulement pour dire que en Italie, on a suivi cet exemple-là. C'est-à-dire que sur certaines régions où il y avait, par exemple, 10 voyageurs par jour, on a fait des contrats de service que pourvoir des bus, des services de bus. Parce que c'est plus efficace.
Quitte à augmenter les fréquences des autobus.
Bien sûr, et ça c'est plus
simple.
Quitte
à améliorer le service.
Bon, oui, alors Benoît Thirion.
Oui, ce qui est important sur ce sujet, je pense, c'est de ne pas se tromper de perspective. C'est-à-dire de ne pas partir de la rentabilité forcément d'une ligne.
C'est vrai.
Mais de partir du besoin.
Du besoin.
Du besoin de l'usager, du besoin du territoire.
Et après on s'adapte.
Et à partir de là, on définit une offre qui peut être multimodale.
Entièrement d'accord.
Et pour ça, pour identifier ce besoin, il faut aussi faire de la concertation. Et donc associer tous les acteurs, les usagers, les acteurs du ferroviaire, mais aussi les acteurs d'autres types de mobilité. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut progresser, parce que sur l'objectif, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'une ligne ferroviaire qui n'est pas fréquentée parce qu'en fait, il n'y a pas de besoin, et pas parce que le service n'est pas bon, par exemple, parce que ça peut être aussi pour ça, il faut effectivement l'abandonner, se concentrer sur le service.
30% du réseau voit passer 2% des passagers.
Tout est dit. 30% du réseau voit passer 2% des passagers.
Peut-être parce que le service n'est pas bon, parce qu'on ne peut pas réserver en avance.
Bon, allez, face à la SNCF, que propose la concurrence? On verra ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer en Allemagne, en Suède, au UK, en Italie, bien entendu, et puis quels sont les acteurs de la concurrence qui veulent concourir, contrecarrer quelque part la SNCF, ici même en France. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bah oui, l'ouverture à la concurrence, donc, sur le ferroviaire. On en parle, évidemment, c'est au cœur de craintes pas toujours fondées, donc, eh bien, de certains qui qui manifestaient nombreux aujourd'hui. Bon, on va pas revenir évidemment sur cette journée sociale, mais justement, que propose la concurrence face à la SNCF? Et on le disait tout à l'heure, l'ouverture des lignes TGV à la concurrence en 2020, et puis les autres TER intercités à partir de 2023, et on met de côté, bien entendu, la raison de le préciser tout à l'heure, Pascal Perry, toute la région parisienne, évidemment, 1 milliard de passagers par an sur les trains de banlieue franciliens. Comme on dit, c'est beaucoup. Bon, très bien. Juste, c'est qui les acteurs de la concurrence qui se profilent? Parce qu'on a sur le plateau Transdev, on a également Tello, donc Trenitalia, la SNCF.
Nos voisins.
Oui.
Nos voisins, les Allemands, j'imagine, peut-être les Espagnols.
Donc, la Deutsche Bahn.
Oui. Alors, la Deutsche Bahn dessert déjà Paris, puisque il y a un axe vers l'est qui passe par Strasbourg, notamment, qui est vendu par la SNCF. Et si vous faites l'expérience, réservez un Paris-Strasbourg aller-retour, vous pouvez monter dans un ICE allemand
parce que c'est un train qui va plus loin
en direction de la Ruhr, donc on peut imaginer que les Allemands vont s'y intéresser,
mais on parle vraiment des lignes franco-françaises, hein,
oui, alors, mais la concurrence, j'allais dire, c'est synalagmatique, c'est-à-dire que la concurrence rien n'empêche la SNCF d'aller également sur le terrain des voisins, et comme c'est un opérateur international de qualité qui a un vrai savoir-faire dans ce domaine avec un assez bon produit qui s'appelle le TGV, on peut s'imaginer que la SNCF ira prendre des parts de marché à ses concurrents.
Il y a le néerlandais Abellio également, il y a des Français aussi qui peuvent concourir aussi.
Peut-être,
la
sans
RATP,
doute.
Via sa filiale RATP.
Oui, il faudrait que la RATP travaille d'abord à améliorer la desserte du réseau parisien.
Retweeté un tweet de Pascal Perry empêtré sur la ligne 13 du métro hier. Colère, mon Pascal.
C'est une horreur. Si l'idée c'est de reproduire à grande échelle sur des trajets de 5 heures l'expérience de la ligne 13.
Faut pas caricaturer, parce que la RATP, ce qu'ils font en dehors du métro parisien, ils le font plutôt bien, notamment bien à l'international. Voilà.
Non, mais retenez simplement que la concurrence devrait aussi faire baisser les prix. C'est-à-dire, on est typiquement dans une activité de capacité où il y a une élasticité de la demande au prix. La SNCF, pendant très longtemps, quand elle s'est battue contre l'avion, c'est le match entre le train et l'avion, la SNCF a pratiqué des prix prédateurs. C'est-à-dire qu'elle a pratiqué des prix qui étaient en dessous de ses coûts de production pour vider les avions et remplir les trains. Quand elle s'est retrouvée en situation de domination de marché, elle a remonté les prix. Et donc c'est ce système dont il faut sortir aujourd'hui avec de nouveaux opérateurs sur les rails français.
C'est vrai que la SNCF, qui est déjà challengée de fait par d'autres transports, hein, bon, l'aérien et puis depuis peu, bon, les cars Macron,
l'autobus, le covoiturage.
Justement, les Flixbus, EasyLine, tiens, Flixbus aussi qui veut prendre aussi des petits bouts du réseau allemand. Bon, on en reparlera.
Allez-y,
alors, Richard Dujardin à la tête de Transdev en France.
Oui, non, si je peux quand même, il y a quand même aussi une vraie problématique, parce qu'aujourd'hui, donc, pour contrecarrer un peu comme avec l'aérien, l'écart Macron, ils ont lancé le produit Ouigo.
Oui, tout juste.
Donc,
bien sûr.
Mais en même temps.
Et puis Ouicar aussi, donc,
ils sont aussi sur Ouibus.
Oui, oui, aussi.
Ouais. Et donc là, c'est là qu'on a quand même une problématique aujourd'hui avec la SNCF. qui est un peu partout, ouais. Et sans vraiment souci de rentabilité sur ces sujets-là. Ouais. Et là, c'est vraiment du domaine commercial. Autant, quelque part, quand vous êtes dans le domaine régulé, subventionné, c'est un autre débat, mais quand vous êtes vraiment dans le commercial, là, ça pose quand même problème, parce que les pertes sont très conséquentes, et on se demande pourquoi et comment.
Tout ça pour vous embêter sûrement Transdev, notamment, entre autres. Hein. Juste sur les prix... Le montant des péages... Tiens, Roberto Rinaudo, à la tête de Tello, filiale de Trenitalia... Les péages donc versés par les opérateurs, y compris la SNCF, donc reversés à RFF, sont-ils bon marché, d'un bon prix ou extrêmement onéreux?
Malheureusement, ils sont plus chers. Ouais. Ils sont 4 fois plus chers qu'en Italie.
Oh.
Pour avoir une ouverture de la concurrence efficace et qui permet de faire bénéficier tous les acteurs concernés, à mon avis, c'est nécessaire d'avoir des bonnes conditions qui favorisent et encouragent l'arrivée de nouveaux opérateurs. Et de ce point de vue, je dois dire que une des contraintes qu'il faut bien évaluer, c'est les prix des péages, donc l'accès à l'infrastructure française. Mais pas seulement ça, il faut aussi vérifier quelles sont les contraintes pour accéder à l'infrastructure. Par exemple, toutes les activités d'homologation et les permis pour rouler avec des flottes étrangères qui dépendent de l'Agence de sécurité ferroviaire, le PCF, mais ils dépendent aussi de la SNCF Réseau. Donc, ce sont des sujets très importants sur lesquels il faut évoluer bien.
Sur ce point, Benoît Thirion, consultant du du Caminal Tormagne.
Ce sont des sujets de régulation très importants.
Les péages resteront-ils aussi élevés?
Qui vont être vraiment essentiels dans l'organisation de la
concurrence. On risque d'empêtrer la concurrence, quelque part.
Il y a un développement aujourd'hui qui est, je pense, jugé inquiétant par l'ensemble des acteurs du ferroviaire, c'est que le rôle de l'ARAFER, donc l'autorité régulatrice,
le gendarme, bien sûr,
va être très important pour justement s'assurer, notamment, que les péages sont fixés au bon niveau. Qui représente bien les coûts de SNCF Réseau, éventuellement d'ailleurs inciter SNCF Réseau à optimiser aussi ses coûts, être aussi efficace. Et aujourd'hui, un des projets du gouvernement dans la loi d'habilitation pour réformer par ordonnance serait justement de priver l'ARAFER d'un pouvoir d'avis conforme sur ces questions-là, pour n'avoir plus qu'un avis consultatif. Et donc c'est un peu paradoxal et inquiétant de voir qu'au moment où on devrait renforcer le régulateur, on envisage au contraire de l'affaiblir et de laisser un peu les coudées franches finalement au groupe SNCF.
Il faut assurer la neutralité du régulateur.
Il faut être très
essentiel.
À ces sujets-là. De même que l'attribution des sillons, par exemple, sur les lignes commerciales, le régulateur va aussi avoir un rôle à jouer très important, parce que comment on va prioriser finalement les demandes de sillons? Parce qu'il y a des sillons qui sont plus intéressants que d'autres.
Sur un Paris-Bordeaux, par exemple, un opérateur pourrait emporter la totalité de la ligne ou des petits bouts.
Si on est en open access, non. Ils feront des demandes en fonction des horaires, des moments de la journée.
Donc on pourra trouver, par exemple, à 8h, par exemple, Trenitalia, à 10h, la Deutsche Bahn qui fait un voyage, à midi, la SNCF, parce qu'il faut quand même laisser un petit bout à la SNCF quand même, etc. C'est comme ça que ça fonctionnera?
Oui, ça pourrait fonctionner comme ça.
Oui. Comment à l'étranger, cette concurrence, Elle s'est mise en place? Il y a Pascal Perry, vous qui avez une vision globale. C'est quoi les modèles qui ont réussi, ceux qui ont moins bien marché?
Écoutez, chaque modèle a ses forces et ses faiblesses. En Italie, en effet, il y a aujourd'hui des opérateurs sur la grande vitesse, des opérateurs alternatifs qui ont fait baisser les prix, qui ont augmenté le volume de l'offre. Et là, il y a une vraie élasticité de la demande.
Sur les grandes lignes.
Oui, sur les grandes lignes notamment. Il y a un modèle comme la Suède où une partie du réseau a été ouvert à la concurrence, des lignes qui étaient présumées rentables, et où l'État a conservé des concessions de services publics sur des parties de réseau qui ne pouvaient pas accéder à la rentabilité. Donc, comme l'expliquait tout à l'heure Benoît, c'est la question de l'usage, c'est la question du besoin exprimé, le rôle de l'État. L'État ne perd pas tout à fait son rôle.
C'est ça, parce
quand
que
on ouvre
quand
à
on
la
parle
concurrence,
de concurrence,
non,
c'est
pas
un épouvantail. On dit c'est horrible, les trains vont être vendus aux Hongkongais, aux Italiens, aux Allemands, etc.
Pas du tout. D'abord, il y a des états généraux de la mobilité. Il y a toujours une ambition politique qui est de continuer d'irriguer le territoire en termes de capillarité fine, donc de proposer des solutions de mobilité collective à ceux qui vivent loin des grands axes. Donc on peut tout à fait, tout à la fois organiser la concurrence sur des lignes qui sont des lignes présumées rentables, à fort volume, sur des mass market, si vous voulez, et maintenir des dispositions de services publics là où il faut continuer d'aménager le territoire.
Alors,
les deux sont tout à fait possibles.
Alors Italie, Suède, on en a parlé. Allemagne,
je vous
donne la parole dans un instant, parce que Richard Dujardin, vous êtes un acteur important, donc directement concurrent de la Deutsche Bahn. La Grande-Bretagne, on a souvent entendu tout et son contraire. On a dit, oh là là, le système ferroviaire britannique a été l'un des premiers à être privatisé, il a été vecteur d'accidents, ce qui n'était pas tout à fait le cas.
Non, mais le réseau n'a pas toujours été très bien entretenu.
C'est un problème de réseau,
il faut l'admettre,
bien sûr.
Ça c'est le premier point.
Apparemment, trois quarts des Britanniques redemandent une renationalisation du secteur ferroviaire.
Alors, pour certains le demandent, mais je crois qu'il y a d'un côté...
Qu'est-ce qui ne va pas là-bas?
L'état du réseau, d'abord, il n'y a pas de train à grande vitesse, à l'exception du segment entre le tunnel sous la Manche et Londres. Et il y a, c'est vrai, une vraie concurrence des opérateurs sur les lignes entre Londres et les Midlands, le nord de l'Angleterre. Le service s'est amélioré, il faut le dire. Une petite chose toute simple. Je rentrais hier de Londres, je n'ai pas pu travailler dans le train entre Lille et Paris parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Le Wi-Fi ne fonctionne pas. Donc si vous voulez, comment voulez-vous vendre un service premium à des hommes d'affaires qui sont prêts à payer plus cher quand on n'a pas le minimum aujourd'hui? Donc en Angleterre, ça s'est amélioré, le confort s'est amélioré, et en revanche, le passager paye le coût complet. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, c'est un système qui est moins hypocrite, le contribuable paye moins, le passager paye le prix de son transport.
À la hausse, en Allemagne, Transdev, qui exploite plusieurs lignes régionales outre-Rhin, vous challengez la Deutsche Bahn. Avec quels résultats, quelles difficultés, quelles réussites, qu'est-ce que vous leur apportez aux Allemands?
Alors, premièrement, je trouve que c'est important de dire qu'aujourd'hui, donc, le marché régional est complètement ouvert. Et malgré ça, la Deutsche Bahn a quand même gardé 2/3 des parts de marché. Mais ça s'est accompagné avec une réduction très significative de leurs coûts de production. Et c'est comme ça qu'ils sont restés compétitifs. Après ces deux tiers, vous avez donc un bon tiers qui est par des opérateurs privés type Transdev. Donc nous, on a à peu près 7% du marché. Mais ce qui représente quand même aujourd'hui pratiquement 100 millions de passagers transportés par an. Donc on voit aussi que les fréquentations sont complètement différentes.
Que l'offre s'est accrue.
Ouais. Alors, je rejoins Pascal. La géographie n'est pas la même, non, il y a une densité différente, etc. Donc on peut pas tout comparer.
Ça a accru l'offre, quel incidence sur le prix? Est-ce que ça a mis fin à des statuts un peu anciens aussi?
Alors ouais, donc entre guillemets, la problématique du statut a été réglée il y a une vingtaine d'années. Donc là maintenant, on est vraiment dans un champ concurrentiel. Encore des problématiques de sociétés intégrées, et c'est ce qui est quand même apparu, et ça c'est quand même un peu dommage, où il faut vraiment on garantisse l'indépendance de SNCF Réseau. Ça c'est très important. Et derrière tout ça, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une telle demande que à chaque nouvel appel d'offres, on arrive avec du matériel roulant neuf.
Neuf, ce que vous dites, là. Au final, est-ce que la concurrence va nous faire préférer le train ou pas, Pascal Perry?
Je pense que oui. J'ajoute simplement que la principale différence entre le système ferroviaire allemand et le nôtre, c'est que le gouvernement fédéral a désendetté la Deutsche Bahn. Je crois que ça date de 1994. Et la Deutsche Bahn a réinvesti après dans des infrastructures et du confort. Il faut qu'en France, en marge de ce débat sur la concurrence, l'État joue vraiment son rôle et assume une grande partie de la dette des 49,9 milliards d'euros que traîne le système ferroviaire français.
Vous, l'Italien, Trenitalia, vous allez nous faire à nouveau préférer le train ou encore plus aimer le train?
Sur la base de l'expérience que nous avons vécue en Italie, l'ouverture à la concurrence a complètement changé les habitudes des Italiens. Et aujourd'hui, ils préfèrent le ferroviaire.
Richard Dujardin.
Bien sûr qu'on va vous faire aimer le train.
Est-ce qu'on verra un jour une sorte d'EasyJet ferroviaire ou pas, Benoît Thirion?
Ça reste un domaine très, très régulé, hein, le ferroviaire. Donc un EasyJet du ferroviaire, je ne sais pas. Le modèle économique est quand même très, très différent. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir développer le train, y compris pour des problématiques de développement durable. Parce qu'on rappellera quand même que c'est le mode de transport le plus propre.
Voilà, on se quitte là-dessus. On y reviendra évidemment d'ici 2020, d'ici 2023, bien entendu, l'ouverture à la concurrence. Merci à tous. Pascal Perry, on le rappelle, hein, SNCF, un scandale français. Toujours d'actualité, c'est le directeur du cabinet.
Édition Erol.
PNC économique. Roberto Rinaudo, merci à vous. Grazie mille, PDG de Tello, filiale de Trenitalia qui concourt pour le Paris-Bordeaux et puis pour des trains régionaux également. Richard Dujardin, directeur général France de Transdev. Et puis avec nous également Benoît Thirion, consultant du cabinet Altermagne. Allez lire sa note sur la réforme ferroviaire à la Fondation Jean Jaurès.
Merci.
C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.